Alors, je viens de vous annoncer qu'après le culte aujourd'hui, nous allons manger un repas ensemble. Je sais déjà ce qu'il y a pour le plat principal, mais je n'ai aucune idée, ni pour les entrées, ni pour les desserts. Esther m'a donné un petit indice en parlant de son dessert, mais comme toujours, il y aura sans doute un très bon choix et d'entrée et de dessert. Et ça veut dire qu'on aura le droit d'essayer 2, 3 ou même 4 desserts différents. Et puis, on est triste que Joël ne soit pas là, mais ça veut dire qu'il y aura peut-être la possibilité de manger un peu plus. Mais on va quand même renvoyer pour Joël chez lui. Il pense à nous. Et peut-être que vous êtes comme moi quand vous voyez, vous prenez quelques desserts. Moi, je vois 3, si Esther n'est pas là, 4 desserts sur mon assiette. Et la première chose que je fais, c'est je regarde pour voir quel est, de ces 4 desserts, mon dessert préféré. Et je garde le meilleur pour la fin. Je ne sais pas si vous faites comme ça, ou si vous prenez simplement une énorme part de votre dessert préféré. Et c'est pour le début et la fin. Mais ma pratique à moi, c'est de réserver le meilleur pour la fin. Et on pourrait dire que, en parlant de la création de l'univers, la création de ce monde, on pourrait dire que Dieu a réservé le meilleur pour la fin. Il a créé d'abord les cieux et la terre, la lumière, la terre, les mers, la verdure, le soleil, la lune, les étoiles, les animaux, les poissons, les oiseaux. Et à chaque étape de la création, Dieu regarde ce qu'il vient de créer et il dit que c'est bon. Mais dans les versets 26 et 27, Dieu fait quelque chose de différent. Il crée quelque chose de différent. Il réserve le meilleur pour la fin. Et il crée des êtres humains. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Et voici la première fois que la Bible parle de l'humanité. Et la première chose que nous apprenons sur l'humanité dans la Bible, la première chose que Dieu décide de nous dire sur nous-mêmes, c'est qu'il nous a créés à son image ou à la ressemblance de Dieu. Dieu a déjà créé la terre, les planètes, les étoiles, les animaux, mais il n'a jamais dit « faisons les animaux à notre image, faisons le soleil à notre image ». Je viens de le dire tout à l'heure, le soleil, la lune, les étoiles révèlent la gloire de Dieu, mais ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Les montagnes nous montrent la puissance de Dieu et la gloire de Dieu, mais elles n'ont pas été créées à son image. Le monde des animaux, des plantes et des fleurs nous parle de la créativité de Dieu. Mais aucune de ces choses n'a été créée à son image. Donc à la fin de son œuvre créatrice, Dieu crée quelque chose d'unique, de distinct, quelque chose qui est différent de toute autre partie de sa création. Et en venant à ces versets ce matin, nous venons à des questions les plus fondamentales sur l'existence et l'identité de l'homme. Nous cherchons à comprendre qui nous sommes, pourquoi nous existons, quelle est notre relation avec Dieu qui nous a créés, avec le monde où il nous a placés. Et beaucoup de gens essaient d'éviter ces questions. Ils remplissent leur vie de toutes sortes d'activités et de divertissements. Ils passent leur vie à travailler, à jouer, à regarder un écran. Ce n'est pas forcément de mauvaises choses, mais ils ne se posent jamais la question « Qui suis-je ? Pourquoi suis-je là ? Comment expliquer mon existence ?» Mais dans ces versets, Dieu nous parle, Dieu dit à l'humanité, « Vous cherchez le sens de votre vie. voulez savoir pourquoi vous existez, écoutez ce que je vais vous dire. Vous avez été créé à l'image de Dieu. C'est la première chose que Dieu nous dit sur les êtres humains. C'est la grande réalité pour l'humanité. Et nous, dans cette pièce, nous sommes tous différents. Nous avons des talents différents, des langues différentes. Nous sommes de différentes tailles, de différentes couleurs de peau, des tempéraments différents. Mais ces versets nous disent qu'il y a une chose qui nous unit. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Alors, ce matin, je veux voir avec vous ce que ça veut dire pour nous être créés à l'image de Dieu. Je veux comprendre cette petite phrase si importante. D'abord, considérons l'image de Dieu définie. Définissons ensemble cette phrase, l'image de Dieu. Nous le trouvons dans le verset 26. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Nous avons déjà dit que c'est les trois parties de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, qui parlent ensemble. Et après tout ce que nous avons appris sur Dieu, il est quand même impressionnant de savoir que nous sommes créés à l'image du Dieu qui a créé l'univers. Nous avons déjà passé du temps à considérer ce Dieu. Nous sommes créés à l'image du Dieu juste, puissant, saint, sage, infini, éternel. Nous sommes à son image. Mais est-ce que nous comprenons bien ce que veut dire créer à l'image de Dieu? Et la meilleure définition que j'ai lue est le suivant. Dieu a créé l'homme qui est semblable à Dieu et qui représente Dieu. Semblable à Dieu et qui représente Dieu. Mais dans quel sens est-ce le cas? Nous représentons Dieu dans le sens où Dieu nous donne de la responsabilité et de la souveraineté dans le monde qu'il a créé. Dans les semaines qui viennent, nous allons considérer ça en détail, pas autant aujourd'hui. Mais Dieu donne des responsabilités à l'homme qui reflète le caractère et les œuvres de Dieu. Il dit à l'homme, remplissez les terres et soumettez-la, dominez sur les animaux. Dieu dit à l'homme, je vous donne la capacité et la responsabilité de gérer la terre et de vous en occuper. Et voici ce que on pourrait dire, ce que les dirigeants étaient en train de faire ces derniers jours à Paris, avec la COP 21. Ils étaient en train de gérer. Certains vont dire que c'est trop tard, mais ils sont en train de mettre en pratique ce commandement de Dieu. Dieu dit, je vous donne cette capacité, cette responsabilité. On verra un peu plus ce que ça va dire la prochaine fois. Alors, mais ça, dans un sens, c'est être... c'est ce que veut dire représenter Dieu. Mais aussi, nous sommes semblables à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, être semblable à Dieu? D'abord, il y a l'aspect moral de l'homme. Nous sommes des êtres moraux. Devant Dieu, nous sommes des créatures moralement responsables de nos actions. Nous avons un sens inné du bien et du mal qui nous distingue des animaux. Nous avons un sens de justice. Bon, certains, ils veulent dire que ce sens de justice vient de notre société, de l'éducation que nous recevons. Mais dans notre fort intérieur, nous savons quand même que certaines choses sont toujours bonnes et que certaines choses sont toujours mauvaises, malgré ce que la société pourrait dire là-dessus. On dit que c'est la société ou la majorité qui décide ce qui est bien, ce qui est mal. Est-ce vrai? Imaginez une société où l'abus des enfants était considéré comme une bonne chose. Imaginez une telle société. Ou imaginez une société où on encourage la pédophilie. Est-ce qu'on pourrait dire, bah, ça veut dire que si la société trouve que c'est une bonne chose, on est obligé d'accepter ça? Non. Nous savons que, peu importe, malgré ce que dit la société, nous savons que ces choses-là sont toujours mauvaises. J'espère que vous saurez que l'abus d'un enfant, malgré les propos de la société, de la majorité, j'espère que vous savez, vous saurez que l'abus et la pédophilie sont toujours une mauvaise chose. Certes, notre société crée des lois, des bonnes ou des mauvaises, mais le sens moral, le sens inné du bien et du mal vient du fait que nous avons été créés à l'image de Dieu. Lorsque nous agissons selon les normes morales de Dieu, notre ressemblance à Dieu se manifeste. Quand nous disons la vérité, nous démontrons notre ressemblance avec Dieu. Quand nous choisissons ce qui est bien et juste, notre ressemblance avec Dieu se manifeste. Quand nous réagissons contre l'injustice et le mal, c'est l'image de Dieu en nous qui se manifeste. Et nous devons, ça c'est l'aspect moral de l'homme, nous devons considérer également l'aspect intellectuel de l'homme. Dieu nous a créés avec une aptitude à raisonner abstraitement, à penser logiquement. Et l'homme se donne à la philosophie pour comprendre son monde, son existence. Il lutte avec des problèmes éthiques, mais les animaux ne font pas cela. L'homme a la capacité d'utiliser un langage complexe et abstrait, de communiquer des idées en dehors de ses expériences. Ce n'est pas vrai des animaux. Dieu est un Dieu créateur, et cette capacité de créer existe aussi chez l'homme. L'homme est doté d'un aspect culturel. Nous créons et nous apprécions, vous le savez, des œuvres de beauté, d'art et de musique et de la littérature. Et cette culture n'existe pas chez les animaux. Il y a également l'aspect spirituel de l'homme, peut-être pour nous l'aspect le plus important. Et la théorie de l'évolution essaie de nous dire que nous sommes essentiellement identiques aux animaux. Certes, on nous dit, nous ne sommes pas au même endroit sur l'échelle évolutionniste, mais essentiellement, il n'y a pas de différence entre nous et les singes, les poissons, les oiseaux. Nous naissons, nous passons quelques ans ici sur Terre à travailler, à manger, à dormir, et puis nous mourons. Et quand nous mourons, c'est fini. Mais si je suis cette logique à la fin, si un petit hérisson se fait tuer par une voiture, logiquement, c'est la même chose que si un enfant se fait tuer par une voiture. S'il n'y a pas essentiellement de différence. Et j'ai posé cette question une fois à un jeune étudiant de sciences à Lyon. Est-ce que vous voyez une différence entre, c'était pas un hérisson, j'ai dit un arbre qui meurt et ta sœur, si elle meurt? Elle dit non, il n'y a pas de différence. Est-ce que tu pleurerais si tu voyais qu'un arbre était mort? Elle dit non. Est-ce que tu pleurerais si c'était ta sœur? Bah oui. Comment expliquer la différence? Elle dit, ça serait une réaction chimique. C'était son explication. Logiquement, si nous sommes comme les singes, les hérissons, il n'y a pas de différence entre un hérisson qui meurt et un enfant qui meurt. Logiquement. Il se trouve que l'enfant est plus sophistiqué que le hérisson. Mais à part ça, il n'y a pas de différence existentielle. Il y a le monde matériel et c'est tout. Voilà ce que l'évolution nous propose. Mais la Bible nous dit le contraire. Heureusement que la Bible nous dit le contraire. La Bible nous dit qu'un enfant a un esprit immatériel que le hérisson n'a pas. Être créé à l'image de Dieu veut dire que nous avons une vie spirituelle qui nous permet d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Nous pouvons prier Dieu, louer Dieu, recevoir la parole de Dieu. Aucun animal ne passera une seconde à prier pour ses amis. Les chiens du quartier ne se réunissent pas pour une soirée de louange. Ils ne cherchent pas à savoir ce que Dieu veut leur dire. Pourtant, Dieu nous a créés avec cette capacité de le connaître, d'avoir une relation avec lui. Dieu nous parle, il nous donne ses commandements, il nous pose des questions, il nous écoute. Tout ça, ce n'est pas vrai du monde des animaux. Nous faisons tous partie d'une espèce créée pour connaître Dieu d'une façon personnelle. Et Dieu nous a créés également avec une conscience de l'éternité. La Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Il y en a chez chaque être humain une conscience de l'éternité. Il y a beaucoup d'athées qui essayent de dire que la mort, c'est la fin. Mais lorsqu'ils s'approchent de la mort, ils commencent à s'inquiéter. Ils sont moins sûrs. Ils se disent, mon éducation athée m'a dit qu'il n'y a rien après la mort. Mais si j'ai tort? Avant, j'étais sûr, mais maintenant, peut-être que j'avais tort. Et on essaie de réprimer et d'étouffer cette conscience, mais elle revient encore et encore. Je pense à mon ancien prof d'allemand qui nous a massacrés avec ses idéologies athées quand on était dans sa classe en terminale. Et on a quitté sa classe sans savoir ce qu'on croyait. Il a dit des choses qu'on n'avait jamais entendues, il a critiqué notre façon de penser, la foi chrétienne. Et quand il a été atteint d'un cancer, il a changé d'avis. Il a changé d'avis. Il a commencé à croire que Dieu existait vraiment. Et c'est le cas pour beaucoup qui, pendant leur vie, nient la réalité de l'éternité. Mais quand ils se trouvent à la porte de l'éternité, ils changent tout à coup. David, pourquoi avoir peur s'il n'y a rien? Pourquoi avoir peur? Et toutes ces choses montrent pourquoi nous attachons une si grande importance et dignité à l'être humain. La naissance d'un enfant, c'est une belle chose. C'est quelque chose d'extraordinaire sur plusieurs niveaux. Et quand on voit un enfant, un petit enfant, on peut imaginer ce que l'enfant fera plus tard dans la vie. Peut-être qu'il sera ceci, peut-être qu'il fera cela. Mais encore plus important est le fait que le bébé est créé à l'image de Dieu. Du Dieu qui a créé l'univers. Les parents tiennent dans leurs bras un enfant créé, semblable à Dieu lui-même. Ce bébé pourra expérimenter la joie, la paix, l'amour, la grâce de Dieu qu'il a créé à son image. Ce bébé deviendra peut-être un grand sportif ou gagnera peut-être beaucoup d'argent dans sa vie. Mais infiniment plus important que ça, ce bébé pourra jouir de la présence de Dieu pour toute l'éternité. Et ce qui est vrai d'un petit bébé est vrai de chaque être humain. Homme, femme, blanc, noir, riche, pauvre, actif, en bonne santé, handicapé, malade en phase terminale. Le bébé né d'une princesse, ainsi que le bébé né dans un bidonville en Inde, tous les deux sont à l'image de Dieu. C'est une chose glorieuse qui devrait transformer notre façon de voir les autres, de voir nous-mêmes que nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors voilà l'image de Dieu définie. Considérons ensuite l'image de Dieu déformée, mais pas perdue. Le verset 31 nous dit qu'après avoir créé toutes choses, l'homme et la femme à son image, Dieu regarde, ou il a regardé tout ce qu'il avait créé, et il a vu que c'était très bon. Jusque-là, c'était bon. Après la création de l'humanité, c'était très bon. L'homme et la femme sont en relation parfaite avec Dieu, parfaitement saints et justes. Il y avait un amour parfait entre l'homme et Dieu, entre l'homme et la femme. L'image de Dieu en eux se manifestait parfaitement en tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils disaient. Si vous allez quelques chapitres plus loin, vous allez voir que ça change énormément. Le premier enfant naît à l'image de Dieu. Le premier fils d'Adam et Ève, il était quoi? Il était un meurtrier. Et dans Genèse 5, verset 5, alors c'est 5 chapitres plus tard, 4 chapitres plus tard, nous lisons « L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. » En quelques pages, on est parti très loin de l'homme créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les semaines qui viennent, nous allons voir que le péché et la rébellion contre Dieu sont entrés dans notre monde. L'homme s'est tourné le dos à Dieu et a décidé qu'il voulait vivre indépendamment de Dieu. Et très vite, nous en voyons les conséquences. Au moment du premier péché, de la première désobéissance à Dieu, l'homme a perdu quelque chose de l'image de Dieu. Il a perdu sa pureté morale. Il a perdu sa sainteté. L'intellect de l'homme a été corrompu par le mensonge et l'erreur. Ses paroles ne rendaient plus gloire à Dieu. Au lieu d'être gouverné par l'amour et la bienveillance, ses relations sont de plus en plus gouvernées par l'égoïsme, la jalousie, la cupidité. Et dans le livre de l'Ecclésiaste, le roi Salomon écrit « Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Donc le péché et la rébellion ont bien déformé l'image de Dieu en l'homme. Mais cette image n'est pas complètement perdue. Parce que même après la chute, la Bible continue à parler de l'homme comme une image, comme étant créé à l'image de Dieu. Dans Genèse 9, Dieu explique pourquoi un meurtre est un crime capital. Et il dit car Dieu a fait l'homme à son image, l'homme pécheur. Et puis dans le Nouveau Testament, Jacques, il parle de ceux qui font du mal avec leur langue, qui disent des choses qui blessent. Et Jacques dit, par la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Jacques dit que nous oublions facilement que des hommes et des femmes sont créés à l'image de Dieu. Et bien que cette image soit parfois difficile à voir, il ne faut jamais l'oublier dans nos relations avec les autres. Et c'est un vrai danger pour nous. Dans un monde où nous devenons de plus en plus déshumanisés. On comprend ceux qui demandent où est donc l'image de Dieu? Où est l'image de Dieu chez le terroriste? Où est l'image de Dieu chez la toxicomane ou l'alcoolique? Comment eux est-ce qu'ils représentent Dieu? La vie humaine ne vaut pas grand-chose de nos jours. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'entre 40 et 50 millions de bébés sont tués chaque année dans le monde dans le ventre de leur maman. Entre 40 et 50 millions. Des bébés créés à l'image de Dieu. On parle des personnes âgées qui ne servent plus à grande chose. Il est impossible de regarder le journal télévisé sans voir un reportage sur un attentat kamikaze, une fusillade, un règlement de compte quelque part, des gens qui portent en eux l'image de Dieu massacrée. Leur vie ne vaut rien. On voit des STF ou des réfugiés à la télé ou dans la rue et on ne fait rien. Mais ce sont des êtres créés par Dieu à son image. Les prostituées dans la rue sont vues comme des objets dont on se sert et surtout pas comme des filles créées à l'image de Dieu. Et voir des vies ruinées par le péché ou voir des gens obsédés par le matérialisme, des gens qui vivent pour des plaisirs éphémères qui ne vont jamais satisfaire, ce devrait nous peiner énormément. Parce que nous savons que ces gens-là ont été créés pour connaître Dieu, pour quelque chose de beaucoup plus digne, beaucoup plus glorieux. Voir un être humain qui passe sa vie dans la boue d'une pocherie quand on sait qu'il a été créé pour le palais du roi. Il a été créé pour jouir de la présence de Dieu. Ça devrait nous peiner. Ça devrait nous faire pleurer. On existe pour connaître Dieu, on existe pour glorifier Dieu, pour avoir une relation avec le roi de l'univers. On pourrait jouir d'une joie, d'une allégresse inimaginable. Pourtant, on passe sa vie à chercher le bonheur dans la boue de ce monde. Alors, je vous demande ce matin, qu'est-ce que vous voyez réellement quand vous voyez un STF. Quand vous voyez une prostituée, qu'est-ce que vous voyez? Un jeune voyou? Des djihadistes à la télé, qu'est-ce que vous voyez? Des personnes à éviter? Des personnes qui vous gênent? Ou des personnes à aimer? Des personnes comme vous, créées pour connaître Dieu, créé à l'image de Dieu. L'image de Dieu définie, l'image de Dieu déformée mais pas perdue. Et puis, en dernier lieu, l'image de Dieu restaurée. De temps en temps, quand on va à un musée ou un château, une cathédrale, on est déçu de trouver que certaines parties qu'on aurait aimé visiter sont fermées. Il y a des panneaux marqués « travaux ». Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quels sont ces travaux? Ben, le but de ces travaux, c'est souvent de restaurer la façade de la cathédrale, de restaurer un tableau ou les vitraux. Avec le temps, la pollution, l'effet de la lumière, les œuvres d'art les monuments sont endommagés, fanés. Ils ne sont plus comme ils étaient avant. Ils ont perdu leur gloire un petit peu. Donc il faut les restaurer. Et souvent ces travaux de restauration durent des mois, voire des années. Mais à la fin, tout est remis à neuf et on voit la beauté et la gloire qui avaient été perdues. Et dans un sens que Dieu est en train de faire dans la vie de chaque chrétien, c'est la même chose. Ce sont des travaux de restauration. L'image de Dieu, nous venons de voir, a été déformée. Les effets du péché, de notre rébellion, l'ont presque complètement effacée. Mais Dieu intervient pour restaurer, pour transformer et pour renouveler l'image déformée. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est mort sur la croix pour payer la dette de notre péché et pour restaurer l'image de Dieu en nous. Écoutez ces versets qui nous parlent de ça, qui sont tellement encourageants pour le chrétien. Paul dit dans Colossiens 3, 10, « Et vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image. » pour que vous le connaissiez parfaitement. Je répète ces mots. Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image. Cette partie du musée est fermée. Dieu est en train de faire des travaux. Dieu veut qu'on le connaisse parfaitement. Paul dit ailleurs, « Nous tous, dans le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » 2 Corinthiens 3, verset 18. Et peut-être le meilleur verset pour décrire ce que Dieu fait. Romains 8, 29. Nous lisons que Dieu nous a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu sauve le chrétien de son péché. Il nous rachète pour que nous devenions de plus en plus comme lui. Il nous renouvelle continuellement en son image. Nous grandissons dans notre compréhension de Dieu, de nous-mêmes, du monde autour de nous. Notre façon d'agir, notre façon de penser devient de plus en plus semblable à celle de Dieu. Nous le représentons de plus en plus. On devrait pouvoir dire au sujet d'un chrétien, regardez cette personne et vous verrez Jésus-Christ en elle. Nous représentons Dieu. Vous voulez voir Jésus-Christ? Vous le verrez dans le comportement, dans les paroles, dans les attitudes, dans le caractère de cette personne-là. Et Dieu veut que nous soyons actifs dans cette restauration de son image. C'est ce que la Bible appelle la sanctification. Nous disons non à nous-mêmes et oui à Jésus-Christ, pour que nous disions avec l'apôtre Paul, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et quand Christ vit en nous, son image se voit de plus en plus. Nous faisons mourir le péché en nous, ce péché qui cache et déforme l'image de Dieu. Et ce que je suis en train de dire, c'est le contraire de ce que le monde nous dit. Le monde nous dit que la vie chrétienne, c'est une vie où on est plus libre. On est obligé de suivre des règles, on est frustré, on ne peut pas vraiment s'épanouir. Mais la Bible nous dit le contraire. Jésus a dit, « Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. » Jésus vit que vous soyez l'être humain que Dieu a créé au début. Une relation restaurée avec Dieu. Une joie et une paix en Dieu et avec Dieu. Une relation transformée avec les autres et avec vous-même. Jésus ne veut pas limiter notre joie, notre bonheur, mais il veut que nous les connaissions en abondance. Quand on se tourne le dos à Dieu, on devient de moins en moins humain. On se croit libre, mais on est esclave au péché. On se croit riche et libre, mais on est pauvre et déshumanisé. Moi, je trouve que c'est triste que la société nous voit simplement comme des consommateurs, des cochons, avec des museaux dans l'auge, mais Dieu nous a créés pour être semblables à Jésus-Christ. Et quelle différence! Et c'est l'espoir pour chaque chrétien, car Dieu a promis un jour que nous serons comme lui. Il est en train de nous restaurer, mais au retour de Jésus-Christ, la Bible nous dit, et on vient de le lire, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. On est toujours en train de faire des travaux. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblable à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Pour le chrétien, un jour, l'image de Dieu sera complètement restaurée. Il n'y aura plus de traces du péché. Mon ami, Dieu vous a créé à son image. Pour le connaître, pour lui ressembler, pour vivre à sa gloire. Est-ce que vous vivez comme ça? Est-ce que vous reconnaissez cette valeur, cette dignité qui est attachée à l'être humain, qui est si différent des animaux? Est-ce que vous voyez ce que Dieu veut faire en vous? Est-ce que vous voyez la gloire et le bonheur qui attendent ceux qui sont en Jésus-Christ, qui seront un jour transformés pour être semblables à lui? Mais tout cela, ce n'est possible qu'en Jésus-Christ. Comme on a vu la semaine dernière, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, la vraie vie. Toute autre vie, c'est un mensonge. Si on ne vit pas comme Dieu nous a créés pour vivre. Ce n'est que Jésus-Christ qui puisse restaurer cette image en nous. Il faut venir à Jésus-Christ pour régler le problème de votre péché et pour restaurer l'image de Dieu. Que Dieu nous aide à vivre comme des êtres créés à son image et de voir les autres comme des êtres créés pour connaître Dieu. Amen.